compétences qui sous forme. Nous allons essentiellement converser ensemble à propos de votre printemps de Tunis, la métamorphose de l'histoire de l'évolution. Alain Michel, pourquoi ne pas l'avoir intitulé d'ailleurs la révolution du jasmin?
C'est une question un peu. Une question, elle est présente, elle est traitée.
On en parle aujourd'hui.
Bon, moi j'aurais aimé, même si évidemment l'expression était déjà là, il y a eu toute une bagarre pour savoir où il est né, qui l'a forgé, et d'être propre, vient-elle de l'extérieur. Une expression très très vive a suscité un immense débat dans ce forum énorme et désormais la blogosphère en Tunisie, et elle a été très massivement rejetée par les Tunisiens. Et on perçut en elle un signe qui renverrait à la vulgarité touristique. Qui ne serait pas faux, du fait que, moi j'ai souvenir, je le rappelle, il y a un moment, il y a eu une campagne publicitaire consacrée justement, faisant l'éloge du tourisme en Tunisie, dans les années 80, avec vraiment la représentation du jasmin d'une manière putassière, et pas d'autre mot. J'en parle. Dans les détails. Je me souviens qu'à l'époque, un ami, un poète algérien, Malek Aloula, était proprement scandalisé par l'usage du jasmin pour tel usage. Je pourrais comprendre, il y a eu un autre argument que c'est absurde, avec cette forme de provocation, d'appeler. Cette révolution du jasmin, du fait que le jasmin ne pousse pas et que la culture du jasmin n'est absolument pas présente dans les steppes de là où tout est parti. C'est-à-dire tous ces cours que personne ne situait dans la géographie, que les Tunisiens eux-mêmes ne connaissent pas, ces gros cours, si possible déjà, tel, Kasmine, toutes ces villes du centre du pays, de la partie la plus négligée du pays, de ceux qui se sentent encore de plus marginalisés, et que cet argument a été d'ailleurs réfuté par un universitaire, M. Orchani, qui est un scientifique, professeur à l'Université de Tunis, qui était très présent dans la blogosphère après le 14 janvier, et il défendait, il était l'un de ceux qui défendaient l'expression, Orchani, venant de la tribu même, hein, la même tribu de celle de laquelle provient celui qui s'est immolé, Mohamed Bouazizi. Et donc, il était très en colère contre cette idée, il estimait coloniale, il a fait raison d'ailleurs, parce que. La steppe n'est plus seulement productrice d'alpha. L'alpha, avec lequel il a entrepris vraiment le papier alpha. Il est d'ailleurs une des premières grandes entreprises postcoloniales industrielles. À l'époque de l'industrie d'État, on l'avait construit à Kasmine. Donc, sur les deux mains de la steppe, une grande usine de papier, productrice justement de papier alpha, à partir d'alpha. Parce qu'il y a eu, pendant ces 40 dernières années, un effort d'arborisation de la steppe. Et d'ailleurs, lorsque moi-même, je suis allé à Sibouzi, cette fois-ci, j'ai décrit cette descente et ce périple à partir de l'église, on constate, chose que je savais déjà, que j'avais rencontré il y a 20 ans, en traversant la même région de part en part, en traversant la Tunisie de part en part, d'une manière certes extensive, parce que le sol ne permettait pas, c'est quelque chose de l'ordre de l'intensité qui ne permettrait pas une forêt d'oliviers me livrait aussi dense que celle du Sahel, ou de Sfax, ou de Zafis, c'est-à-dire près du littoral, mais quand même, tout cet espace a été transformé en une immense oliveraie sur plus de 100 km. On est dans cette espèce, dans la même atmosphère de monoculture telle que cela peut apparaître dans le sud de l'Espagne, en Andalousie, ou à terme Andalousie a cette autre alternance, la très belle présence de cette énorme forêt, cette arbre gigantesque de forêt de chêne, qui n'est pas présente. Donc, l'idée fausse, là aussi. Hein. Un Tunisien a revendiqué lui-même l'invention du terme, que ce soit donc une invention locale, mais le terme a été connu. Et c'est cet aspect. On peut estimer que les Tunisiens ont décidé de l'égarer. Même si je persiste à dire le rapport personnel, même le biographique que j'ai eu avec la semaine, quasi mystique. Ça, je laisse, les lecteurs découvrir ce que j'en dis dans le livre, peut-être très important. Alors, entre temps, en plus, j'ai découvert le but, pourquoi tout livre reste ouvert, et c'est un passage qui l'éditeur a accepté, et l'élégance et l'amitié d'accepter que pour le prochain tirage, il y a deux passages de choses que j'ai retrouvées et qui m'ont paru aller dans la logique de certaines séquences du livre qui vont être ajoutées pour le prochain tirage. Et notamment, la longue séquence sur le jasmin finira désormais par l'ajout d'un poème de Rupert, Friedrich Rupert, le grand poète allemand juste après Goethe, qui était à la fois un immense orientaliste, un très grand philologue, un très grand traducteur, qui depuis les 33 langues et a apporté à la langue allemande bien de poèmes et de poètes qui font des traductions politiques chinoises, persanes, arabes, ourdous. Et il écrivait en même temps des poèmes orientaux, et dans la forme Raden, la fameuse forme politique des persans, celle qui a tant fasciné Goethe, lorsque Goethe avait découvert Rabez, puisque le grand maître de Raden, c'est ce poète du Chirac du 14e siècle, et le poète national persan, perse. Lorsque Goethe avait découvert Rabez, il avait décidé d'écrire son fameux divan occidental, oriental. Et c'est donc dans ce courant qui est né d'orientalisme en Allemagne, juste après Goethe, Rupert a écrit un recueil de poèmes qui s'appelle Rose d'Orient, dans lequel se trouve un très beau poème, bref, qui est lié au jasmin, et qui va être mis en musique par Roger Schumann. Et donc il sera transformé en livre par Schumann, et j'ai ajouté cette pièce à la séquence qui concerne le jasmin. Donc malgré la réputation de l'expression par les Tunisiens, je ne l'emploie pas dans le titre, certes, mais je lui consacre toute une séquence pour dire combien cette fleur est pu être la métonymie du mouvement. On pourrait bien sûr sur la séquence des événements qui débute le 17 décembre avec l'immolation de Mohamed Bouazizi jusqu'à la chute du régime de Benali le 14 janvier 2011. Et vous insistez tout particulièrement sur l'importance d'Internet et singulièrement de Facebook dans cette révolution tunisienne que l'on retrouve d'ailleurs en Égypte le mois suivant, et qu'on retrouve également dans les événements qui se déroulent actuellement ici. Et ailleurs dans le monde arabe. Ça, c'est le grand événement, c'est le grand... c'est quelque chose qui mérite d'être interrogé au-delà de l'événement lui-même. C'est peut-être public qui provient de cet événement, cette nouvelle façon d'être participant dans l'histoire d'une manière majeure, de créer un événement qui constitue une rupture. Quelque que puisse être le futur de cet événement, il peut aller vers le pire des périls, mais c'est une révolution au sens réel du terme, le mot révolution pour conserver, parce qu'on peut estimer que la structure dans ses fondements du pouvoir, tel qu'elle s'exerçait, dans toute une région est entamée. Elle est entamée et a connu une brisure, donc elle n'est plus utilisable. Et ça, c'est un élément donc énorme. Et c'est dû cet événement et l'origine, l'instrument de cet événement a été le web. Je crois que c'est quelque chose qui mérite, c'est là où cet événement déborde totalement le cas de la Tunisie, le cas du Mont Arabe. Il participe à une histoire, semble-t-il. Et l'instrument Internet, dans son rapport avec l'histoire et avec la politique, s'est exprimé, s'est manifesté en créant un événement constituant une rupture à travers l'histoire, ou une métamorphose de l'histoire. Et c'est dû, il y a déjà des antériorités, j'en repère au moins deux. Souvenez-vous de l'effet considérable qu'a eu l'usage du web et la participation des jeunes, particulièrement, qui d'habitude ne font pas d'une manière aussi intense la politique, en Amérique, pour l'élection d'Obama. Vous savez que les spécialistes ont projeté en argent, l'effet de l'intervention du web pendant la campagne d'Obama, et cette projection, l'effet est calculable, il nous fallut trois fois plus de budget si, pour obtenir le même effet par les moyens traditionnels. C'est que c'est un instrument gratuit. Ça, c'est un élément énorme et tout à fait nouveau. La deuxième apparition de ce type d'événement, d'usage de cet instrument, pas seulement vers le web est en train de téléphone portable, mais le rapport web, téléphone portable, c'est important, l'image, c'est la diffusion de l'image, c'est ça qui est majeur. Ce qui arrive en Syrie, ce que nous voyons d'une manière extraordinaire en Syrie en ce moment, comment justement, ce qui panique le régime, parce qu'avant, on tuait dans l'impunité la plus totale, dans le silence. Le cas de la Syrie, à Hama, en 1985 ou 1986, je ne sais plus, des milliers de morts, et la rumeur est parvenue au monde quelques 15 jours, 3 semaines après, et d'une manière ténue. Voilà, j'avais mesuré l'effet considérable. Là, désormais, les chars sont entrés hier à Dara, le monde entier le sait. Pour, en raison justement de. C'est-à-dire qu'il n'y a plus la guerre des images. La maîtrise des images n'est plus entre les mains de ces États, n'est plus entre les mains des structures qui se veulent closes et fermées sur la planète. C'est déjà cet effet d'échapper une ouverture qui change tout, me semble-t-il, et mon histoire, en fait. Voilà. Et donc, le deuxième événement après celui d'Obama, où cet instrument est intervenu, c'est évidemment ce qui est arrivé en juin 2009 en Iran. Avec la Tunisie, c'est devenu extraordinaire parce que cela a réussi. Et d'ailleurs, le fait que c'est devenu un exemple pour l'Égypte immédiatement après. Et j'ajouterai un autre élément pour dire que cela déborde le monde arabe, combien la Chine est vigilante, combien la Chine panique. Et gloire, je dirais, à la Tunisie pour que le mot Tunisie, le mot jasmin, le mot arabe et le mot Égypte participent au lexique qui filtre les messages en Chine depuis donc cet hiver. Là aussi, ça donne un argument supplémentaire pour injecter de la valeur au jasmin. L'intervention. Et j'ai cru comprendre, c'est une information qui, je ne sais pas d'ailleurs ce qu'il en est, je n'ai pas réussi à la suivre, mais il est arrivé de lire des articles, particulièrement dans la presse américaine et arabe, j'en ai pas lu dans la presse française, sur un mouvement politique en Croatie, dans un pays plus avancé vers la démocratisation et aux portes de l'Europe, probablement futur pays appartenant à l'entité européenne. Et il y avait une défiance à l'égard d'un gouvernement démocratiquement élu qui n'a pas encore, qui n'est pas parvenu au terme de son mandat, et le peuple, voulant donc vider, on offre des gaz si on veut, à usage a été Internet. C'était très 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 impressionnant, une mobilisation spectaculaire par Internet à la manière justement tunisienne. Alors, lorsque je discute, j'ai discuté avec des leaders tunisiens ou égyptiens d'ailleurs de la blogosphère, tous me disent, comme je le disais, c'est très important, il faut que vous organisiez, l'étape d'après est majeure, la chute de la dictature, le bâtir mécaniquement l'avènement de la démocratie. Il y a un monde entre la chute de la dictature et l'année de la démocratie sera longue. Il y a un combat politique à mener. Je crois que ceux qui sont les mieux organisés sont les islamistes. Il faut savoir, en tant que structure politique, ceux qui sont dans la passion du politique, de la militance, dans la technique du politique, c'est l'évidence des islamistes. Et quand je dis tout cela, je n'arrive pas à convaincre les jeunes. Ils sont des jeunes très proches, en fait, des jeunes du Sud d'Europe ou d'Amérique. Ils veulent bien faire de la politique, participer aux affaires de la cité, mais pas du tout par les moyens de la politique. Ils sont post-politiques, je les appelle ainsi. Et donc, les Tunisiens et les Égyptiens de la blogosphère ont été donc décisifs dans ce qui est arrivé, cet événement historique, ne veulent pas entendre parler de la politique. Dans le meilleur état, ils seraient prêts à être associatifs, à être engagés, à intervenir à partir du site de la société civile. Mais ils ne veulent absolument pas être organisés. Et ils ont la certitude de leur fait, ils s'imaginent en communauté, mobilisables lorsqu'elles assignent une tâche, la tâche accomplie, comme par exemple la chute de la dictature, la communauté se dissout. Et remobilisables à tout moment. Est-ce une nouvelle façon de faire? C'est là aussi où il y a des questions.
C'est là aussi où il y a des interrogations.